Morin.
Le sentez-vous?
Live.
Avec Dominique Morin.
C'est beau à voir. C'est beau à voir.
Radio X.
Lax, Laurentienne capitale. C'est ce qu'on retient ce matin. Surtout.
L'axe du mal.
Non? Moi, non, j'irais plus pour l'axe de l'Université Laval. Non,
OK. Là aussi, c'est parti, là.
Ben oui, je vois bien ça. Là aussi, c'est problématique. En fait, c'est surtout Robert Bourassa dans le coin de l'Université Laval ou encore Place Sainte-Foy. C'est compliqué ce matin. Je ne l'ai pas d'habitude, mais un matin, je l'ai. Pour le reste, ça va bien. Donc, écrivez-nous au 88-670-9098 si jamais vous voyez quelqu'un lancer son verre de café par la fenêtre. Mais somme toute, ça va assez bien ce matin. Aujourd'hui, tu passes chez Pharmaprix. Puis tu ouvres l'application. Magazine, scan et obtient 20 fois les points ou 25 fois les points avec une carte PC Finance modalité dans l'application.
OK, on continue le show. À date, ça va bien. Frank s'en vient, spécial 9-11 avec Frank. C'est une twist le fun, c'est une twist intéressante. Max Truman également. Phil, bien entendu, le nez à feu. Mais d'abord, Nathalie Elgrablé et... Salut Nathalie, comment ça va?
Bonjour Dominique, très bien toi?
Très bien. La campagne, comment tu la trouves jusqu'à maintenant, la campagne?
Comment je la trouve, la campagne? Je la trouve assez... Elle gravite beaucoup, essentiellement autour de, on le sait bien, autour de Donald Trump. Je trouve ça extraordinaire de voir comment, alors que les enjeux au Québec, on en a énormément... on trouve tous les partis, en fait, j'ai l'impression même que c'est une bénédiction pour eux, les tarifs de Donald Trump, parce qu'ils réussissent tous, la CAQ en particulier, eux, ils en font, c'est devenu le fonds de commerce, mais ils trouvent tous une façon de récupérer Trump pour faire avancer des idées qu'ils avaient de toute façon. Et ça, je trouve ça quand même assez particulier au point de... Je sais pas, on est rendu presque à l'overdose de Donald Trump. Je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on le mette un petit peu de côté parce que, oui, il est là. Oui, c'est vrai qu'il a mis des tarifs, mais on ne peut pas tout faire graviter autour de cet événement-là, de cet enjeu-là uniquement. Surtout que, on est largement responsable des conséquences qui sont en train de se produire. Parce que, je faisais une petite recherche rapide. Si on n'avait pas réagi lorsque Donald Trump est arrivé avec ses tarifs, c'était en mars de l'année passée, en mars 2025. Si on n'avait pas réagi, on serait aujourd'hui avec des tarifs de 25% sur les produits canadiens qui ne sont pas inclus dans l'accord de libre-échange, et 10% sur l'énergie, la potasse, et 25% sur l'acier et l'aluminium. Ça, c'était ce qu'il avait introduit au départ. Les tarifs qui sont venus ensuite, c'était les contre-tarifs du côté américain. Donc, c'est ça ce qu'on aurait eu. Mais quand on regarde où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, avec nos soi-disant mesures pour... pour faire de la flexion des biceps, parce que c'est ça ce qu'on a essayé de faire finalement, on a rajouté à tout ce qu'il y avait au départ toute une série de tarifs canadiens sur des produits américains que les Canadiens sont en train de payer. Donc il y avait des 25% sur les produits américains. On a ajouté toute la série dollar pour dollar. Sur les contre-tarifs sur l'acier, l'aluminium, l'automobile. Écoute, je me dis, si simplement on pouvait faire marche arrière à mars 2025, on serait déjà dans une bien, bien meilleure situation. J'étais contente quand même de voir ce matin que Mark Carney annonce qu'il ne va pas répliquer. Ouf! Je pense que c'était le minimum qu'on pouvait attendre de lui, c'est qu'il arrête l'escalade.
Il arrête l'escalade et là, on comprend qu'il continue de parler avec Trump. Il n'a jamais cessé de parler à Trump. De plus en plus, je me rends compte, et est-ce, je ne veux pas avoir une vision conspi, mais quand même, il ne faut pas être naïf. Les politiciens sont là pour affermir leur pouvoir, garantir leur pouvoir et justement maintenir le pouvoir dans le temps. C'est le cas de Carney. Et c'est très payant pour les deux parties. Trump, d'abord, rah-rah-rah, c'est très payant pour lui avec le Trumpalooza à Dallas, où hier, J.D. Vance a clenché sur le stage le Mexique. Il y a quelqu'un qui avait un drapeau du Mexique, puis il dit « Sac ton camp, on te paye un billet, débarrasse. » Il a carrément dit ça. On blasse le Canada, c'est très, très payant pour la base. Et Carney, sondage ce matin, National Post, Carney a gagné beaucoup, beaucoup de points au cours des dernières semaines sur Poilievre. Et on se rend compte qu'il y a 1 million de conservateurs, des électeurs conservateurs, qui ont voté Poilievre l'an passé, qui voteraient Carney maintenant. 1 million sont prêts à switcher complètement. Donc, ça joue des deux côtés. Tout le monde est content de cette guerre-là. Au final, quand les Kodak se ferment et les réflecteurs se ferment, ces gens-là sont peut-être plus contents qu'on pense. Il y a des dommages. C'est ça qui est dramatique. Oui, il y a des dommages, mais au final, les politiciens, dans leur bulle, je pense qu'ils sont plus contents qu'on pense.
Moi, je suis convaincue que Mark Carney est pas mal satisfait de ce qui se passe. En fait, il entretient la guerre tarifaire. Parce que quand, avec tous les tarifs qu'il vient de rajouter, d'abord, il faut arrêter de parler de contre-tarifs. Parce que quand on met le préfixe contre devant tarif, on dirait que ça légitime l'action. C'est comme, oh, on fait ça pour se défendre, on fait ça parce qu'on est attaqué. En fait, un tarif, c'est un tarif. L'effet, il est identique qu'on appelle ça un tarif ou qu'on appelle ça un contre-tarif. Donc, moi, je préférais qu'on enlève le terme contre-tarif parce que c'est une légitimité qu'on donne à l'action, une légitimité qu'elle ne mérite pas. Parce que les conséquences, ce sont les Canadiens qui les payent. D'ailleurs, que ce soit Carney ou que ce soit Fréchette, à chaque fois qu'ils prennent la parole par rapport à ça, ils nous disent « oui, oui, c'est important, il faut qu'on se tienne debout », mais ça va faire très, très mal. Soyez prêts à assumer les conséquences. L'autre raison pour laquelle je pense que ça fait leur affaire, ça génère énormément de recettes de tarifs douaniers à Ottawa. Mine de rien, sous le couvert de « on défend les Canadiens », en fait, les tarifs douaniers augmentaient au printemps dernier, ça avait déjà augmenté de 9,7 milliards. Donc, c'est pas du petit change. Sur ce montant-là, il semblerait qu'il y ait environ 5 milliards qui va être remis, je ne sais pas comment, je n'ai pas trouvé, mais remis pour compenser pour les dommages économiques. Ça veut quand même dire qu'il reste plus de à peu près 4,7 milliards. Qui rentrent directement dans les coffres de l'État. Donc, quand on sait la situation financière dans laquelle Ottawa se trouve, être capable de taxer à ce niveau-là sans s'attirer les foudres des payeurs de taxes, c'est quand même spectaculaire. C'est vraiment un beau tour de passe-passe d'aller venir chercher l'argent dans les poches et les gens sont contents de donner cet argent-là et même qu'ils en redemandent encore. C'est complètement surréaliste, la situation. Et côté québécois, j'écoutais l'émission spéciale à Radio-Canada.
Oui, cinq chefs.
Avec les cinq chefs, exactement. Et je trouvais ça intéressant, justement, de voir que, comme je disais tantôt, oui, Trump, il est utilisé à toutes les sauces. Alors oui, pour la CAQ, ça devient un enjeu de protection majeur.
C'est un bonhomme sateur. On sort le bonhomme sateur. Trump s'en vient, puis je vais vous protéger. C'est ça la clip.
C'est ça. Ah, donc c'est la politique de la peur.
Oui.
Parce que et je le comprends d'un point de vue politique. Madame Fréchette arrive avec la CAQ, dont elle essaye absolument de se débarrasser de cette étiquette-là, mais c'est la CAQ qui se représente. Et dans le fond, en politique, on a, pour qu'un chef se fasse élire, il n'a pas tellement besoin d'être aimé. Il faut juste qu'il fasse croire à la population que l'alternative est beaucoup plus risquée. Pour qu'en termes relatifs, on se dit « Ok, je ne l'aime pas, j'aime pas les 8 dernières années, mais on va quand même voter pour elle. » J'ai l'impression que c'est l'angle qui est adopté par la CAQ. C'est, on va jouer la carte de la peur, parce qu'en plus, quand les gens ont peur, l'effort cognitif pour essayer de peser le pour et le contre de chaque parti, il est diminué. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. On n'y peut rien. Et c'est un effort C'est ça, c'est, on va pas essayer de se faire aimer, on va juste essayer de faire passer les autres
parties. Super intéressant, c'est bon. C'est vrai, donc continuons. Non, c'est pas continuons, c'est quoi, c'est son slogan? Avançons. Donc on avance, on continue, on avance, mais en fait, c'est continuons,
mais
modifier. C'est
bon.
Ça. Et on diabolise, entre autres du M, on dit, garde, il va couper, d'après moi, les services vont être affectés. On diabolise le PQ. Ah, l'incertitude, puis la souveraineté, c'est peut-être pas le temps. Alors que effectivement, une majorité de Québécois ne veulent pas de référendum et voteraient non. Puis le Parti libéral...
Mais ça, je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un plat sur le référendum. J'écoutais l'entrevue il y a quelques instants avec Olivier Primo, puis pourquoi il vote la CAQ? Parce qu'il ne veut pas de référendum. Mais c'est deux choses indépendantes. On peut ne pas vouloir de référendum, mais si on aime les politiques de PSPP, si on trouve que le Parti québécois a des bonnes idées pour le fonctionnement de la société, ben ça devrait pas être...
Ça devrait pas être un enjeu et un facteur de réflexion.
Ben non, parce que par définition, le référendum, c'est quoi? C'est quoi un référendum? On demande à la population?
Oui.
OK, ben le jour où il va faire son référendum et qu'il va demander à la population, je voterai oui ou je voterai non, en fonction de ce que je veux. Mais il me semble que c'est pas contradictoire de vouloir
le Parti québécois et
ne pas vouloir de référendum. Donc moi, je dis non, on choisit un premier ministre... que chacun le choisisse en fonction de ce qu'il voit d'intéressant dans les différents partis. Et si c'est le Parti québécois et que la personne, elle ne veut pas de référendum, ben elle vote non. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne vais pas aller choisir la CAQ parce que je ne veux pas de référendum. Ce n'est pas vrai, non.
En terminant, c'est quand même important, là, en cette journée. Ça fait 25 ans, le 11 septembre. Je ne sais pas si tu as lu Christian Rioux, très bon. On a lu des extraits tantôt. Selon lui, ils ont gagné. Bon, les islamistes, évidemment, on les voit et on les entend, entre autres dans les rues de Montréal, mais lui, il parle de Paris parce qu'il a passé les dernières années de sa vie là. Il a couvert, entre autres, Charlie Hebdo et le Bataclan. Je veux t'entendre là-dessus. En quoi, qui a gagné, qui a perdu, si on peut parler dans ce langage-là, et en quoi les sociétés sont différentes, en quoi l'Occident est différent 25 ans plus tard? Qu'est-ce qu'on a gagné et qu'est-ce qu'on a perdu?
Ben, je pense qu'on a perdu, et c'est ça l'objectif de toute manœuvre terroriste, c'est de faire peur. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on prend l'avion pour aller aux États-Unis depuis 2001? Ben, on passe aux douanes, on nous fait enlever les chaussures, il y a toutes sortes de mesures, et je condamne pas ces mesures-là, c'est des mesures de...
Désolé si j'ai dit 15 ans, c'est en 2001, donc c'est 25
2001,
ans. Oui.
25 ans, j'ai
désolé,
dit.
Désolé, je me suis
désolé,
pas...
Oui. Donc oui, il y a toutes ces nouvelles mesures qui, dans le fond, sont venues limiter nos libertés individuelles. Moi, je me souviens très bien de l'époque où, pour rentrer aux États-Unis, en tout cas par voiture, écoute, pas de passeport, je montrais mon permis de conduire canadien. Et,
oui.
Et puis bon, le douanier nous disait, OK, ben bon séjour. Et donc, on vivait vraiment dans une atmosphère totalement différente. Il y avait plus, je dirais, d'harmonie à l'intérieur de la société, plus de sécurité intérieure, de sécurité aux frontières. Donc, ce qu'on a perdu, c'est ce sentiment de sécurité qu'on avait, qu'on n'a jamais récupéré, et en fait, qui s'est même amplifié au fil du temps. Je pense aussi, tu parlais de la France, Charlie Hebdo et ainsi de suite, ben, on a perdu notre spontanéité. Parce que avant de parler, il y a toujours une gêne, une autocensure en quelque sorte, parce que, voilà. Donc, cette façon de vivre que l'Occident avait, avec un sentiment de sécurité généralisée, davantage de liberté d'expression, qui, à mon avis, est une valeur qui est fondamentale.
Libertés ont reculé.
Complètement reculé, tout à fait. Si je compare, je suis assez vieille pour comparer aujourd'hui à quand j'avais 18 ans, 20 ans, 22 ans, on vit plus du tout dans la même atmosphère. Il n'y a plus du tout la même harmonie dans la société entre ouais, cette époque-là et aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça vraiment regrettable parce que c'est justement ce sentiment de liberté qui fait en sorte, et c'est pas juste bon pour le Canada ou le Québec, mais historiquement, ce qui a permis le développement des sociétés, c'est justement lorsqu'on donne plus de liberté aux individus. Or là, ben, on en a perdu énormément, et à cela s'est ajouté, avec tous les réseaux sociaux au cours des dernières années,
la rectitude et le contrôle.
Voilà, exactement. Donc, on est beaucoup, beaucoup dans l'autocensure. J'ai souvent cette conversation-là avec mes étudiants où je leur demande, bon, quand vous prononcez sur vos réseaux sociaux ce que vous mettez ou quoi que ce soit, est-ce que vous y réfléchissez longtemps avant de mettre quelque chose? Et la réponse est oui, il y a de l'autocensure dans la nouvelle génération, ce qu'il n'y avait pas, ou en tout cas beaucoup moins. Bon, il n'y avait pas de réseaux sociaux à mon époque, mais quand on voulait s'exprimer, ben, il n'y avait pas de crainte. On le faisait.
Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Merci beaucoup, Nathalie El-Grabli. On se reparle dans 2 semaines, assurément. Merci infiniment pour ce matin.
Merci, Dominique.
Merci. Bye-bye. 11 septembre 2001. Et que ça passe vite.
Hey,
aller à New York en passant, message. Les gens qui vont aller faire le voyage de football.
Oui.
Les gens qui veulent vivre une expérience différente. Et oui, il y aura du plaisir lors de votre voyage de foot. Là. Allez au musée 9-11 et prenez un avant-midi ou un après-midi. C'est minimum 3 heures. C'est exceptionnel. Et oui, il y a quelques sections où vous ne pouvez pas y aller avec des enfants. En fait, on vous suggère de, dépendant de l'âge des enfants et dépendant de votre jugement, vous entendez des conversations de gens qui s'apprêtent à mourir, qui crashent dans l'avion, des gens qui lancent des messages de détresse, des boîtes vocales, vous les entendez.
Oui.
Donc, c'est ahurissant.
On les attend aussi dans le...
camion de pompiers, des ambulances, tout ça, c'est exposé. Il y a évidemment des débris sur place. Beaucoup d'explications, beaucoup d'éducation.
On entend beaucoup également dans le documentaire duquel je vous parlais ce matin, qui est sur Netflix, qui a été fait. Là, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il est sorti.
Non, ça, je ne l'ai pas vu. Ça, je vais le voir.
Puis, tu sais, on entend plusieurs, surtout le vol 93.
Qui s'est écrasé dans le champ.
Oui, qui s'est écrasé dans le champ. On attend.
Je crois.
Quand les gens se sont rendus compte que. Bon, ils se sont bien rendus compte que leur vol était détourné, là, ça c'est. Mais à un moment donné, eux autres, ça s'est passé après les attentats du 11 septembre, quelques minutes après. Donc, ils savaient, de par le cellulaire, que leur avion était destiné à frapper quelque part aux États-Unis et ils ont décidé de le faire crasher. Juste cette histoire-là est malade.
Et pour finir, avant d'aller à la pause, le documentaire dont tu parles, il est en une de Netflix ce matin, Tournant, Génération 11 septembre. Tournant, c'est un drôle de nom, là, mais c'est comme ça. Tournant, Génération 11 septembre, qualifié de provocant par Netflix. Donc, mais c'est numéro 5 parmi les films aujourd'hui. Il est là en une de Netflix.
Voilà.
On va à la pause et on revient à Radio X.
Morey.
Le sentez-vous?
Live.
On revient dans pas long.
Radio X.